Bonsoir à tous, le Christ est ressuscité. Alors aujourd'hui, nous poursuivons dans le chapitre 6 de l'Apocalypse. Nous avions vu l'ouverture des quatre premiers sceaux, et donc nous en sommes au cinquième sceau. Alors je vais citer le texte, hein, l'ouverture du cinquième sceau. Donc chapitre 6, versets 9 à 10. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusques à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Alors, déjà une remarque de traduction de ceux qui avaient été immolés, plus exactement, si on suit le texte grec, de ceux qui avaient été égorgés, semblablement à l'égorgement de l'agneau. Bon, alors ces versets sont à rapprocher, bien sûr, d'autres versets que nous connaissons dans l'Évangile, cette fois, de Matthieu 24, et les versets 9 à 13 que je cite, s'agissant donc toujours des mêmes personnes, « Alors on vous livrera au tourment et on vous tuera, vous serez haïs de toutes les nations. » Les nations ici, c'est l'équivalent de païens. Hein. « Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Et alors, beaucoup succomberont, ce seront des trahisons et des haines intestines, des faux prophètes surgiront, et nombreux voilà, et abuseront bien des gens. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le grand nombre. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Et nous remarquons, s'agissant de la place de ces versets dans l'évangile de saint Matthieu, que ce sont ceux qui précèdent la grande tribulation de Jérusalem et la manifestation de l'avènement du Fils de l'homme. Alors avec le cinquième sceau, vous vous souvenez du quatrième, hein, on repasse de la terre au ciel, et on est mis en présence de l'autel. Ça, c'est vraiment une image très importante. L'autel sous lequel sont les âmes des martyrs à cause de la parole de Dieu. Martyrs qui ont été immolés, donc égorgés au sens strict du terme, et leur immolation fait qu'ils sont totalement identifiés à leur maître, le Christ, l'agneau divin, ayant l'obéissance totale d'eux-mêmes à cause de la parole, s'est-il dit. Ça, c'est une caractéristique des martyrs, non seulement dans le récit de l'Apocalypse, mais des martyrs de tous les temps. Par exemple, Sainte Marie de Paris, la moniale russe, qui était rue de Lourmel, qui a pris la place d'une autre dans la chambre à gaz au camp de Ravensbrück, eh bien, elle a fait l'oblation totale d'elle-même et elle s'est totalement identifiée à son maître, le Christ. Ceci pour ne citer qu'un exemple, il y en aurait beaucoup d'autres également. Alors, le verbe sphazo renforce ce parallèle. Le verbe que nous avons déjà rencontré en Apocalypse 5-6, comme nous l'avons vu. Dans la lettre à l'église de Pergame, d'ailleurs, le Christ avait invité à demeurer fidèle jusqu'à la mort, Apocalypse 2-10. Et c'est Antipas, justement, le témoin fidèle, qui avait été immolé, Apocalypse 2-13. Alors ici, il nous est donné d'être mis en présence des âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu, bien sûr en ce lieu si particulier qu'est l'autel, puisque c'est le lieu de l'offrande qui est offerte à Dieu. Alors on peut en conclure que ces martyrs, enfin, on peut subodorer que ces martyrs ont déjà un statut particulier. Dès leur passage, dès leur mort, ils vivent en un lieu, nous dit l'Apocalypse et toute l'Écriture avec elle, en un lieu où resplendit la lumière de Dieu. Pour autant, ils sont en attente de la délivrance du monde, des rachetés. Mais leur proximité avec l'autel est là aussi pour souligner combien ils sont déjà dans un état de béatitude. Alors j'en conviens, cette réalité est bien difficile à décrire, hein, comme vous le pouvez le ressentir, car en vérité, cette réalité nous est largement encore mystérieuse. Nous n'en savons presque rien. Mais il suffit néanmoins pour nous de savoir qu'elle est cette réalité. C'est une certitude de foi qui est conforme à la promesse de Dieu. Et cela doit nous suffire. Point n'est besoin d'aller fouiller le mystère. Et ces âmes des martyrs, qu'est-ce qu'elles disent ? Jusque à quand, maître saint et véridique ? Ô despotes, ô agios, qu'é alethinos. Maître saint et véridique, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang envers les habitants de la terre ? Krinou, juger, c'est le verbe grec qui signifie juger, peser, estimer, condamner, séparer, distinguer. Vous connaissez tous la polysémie du grec. Ekdikeou, venger, faire justice à quelqu'un, tirer vengeance de quelque chose. Egdikesis, vengeance, punition. Ce substantif est employé dans Romains 12, 19 et en Hébreu 10, 30. Alors, cette question, elle est posée par des âmes dont le sacrifice, finalement, s'identifie à celui de l'agneau. Le Christ. C'est donc un sacrifice d'amour inconditionnel, comme celui de l'agneau de Dieu immolé sur l'autel de la croix. Et ça fait que ces âmes crient à grande voix, à voix puissante, si vous préférez. Le texte grec dit littéralement à grande voix. Jusque à quand ? Donc le verbe, il indique bien que la voix des martyrs est puissante, intense, et je vous le rappelle, la scène se déroule au ciel, donc puisque cette voix des martyrs qui sont sous l'autel eh bien elle est au ciel, elle est entendue de Dieu. Alors on peut déjà remarquer que la puissance manifestée par le verbe crier, crier avec un complément, d'une voix forte, eh bien, c'est la manifestation de ceux qui appartiennent à Dieu totalement. Comme vous le savez, comme je l'ai dit à maintes reprises, il y a beaucoup de réminiscences de l'Écriture dans l'Apocalypse. Il y a un jeu de va-et-vient entre l'Apocalypse, l'Évangile et l'Écriture vétérotestamentaire. Et là, il y en a une qui fait particulièrement écho, qui figure au psaume 73. Je cite les versets 10 à 11. « Jusques à quand, ô Dieu, l'ennemi nous insultera-t-il ? L'adversaire outragera-t-il ton nom à jamais ? Pourquoi retiens-tu ta main ? Pourquoi caches-tu sans fin ta droite en ton sein ?» Et dans l'évangile de saint Luc, nous rencontrons aussi ce verbe ekdikeu, venger, faire justice. Dans la parabole du juge inique en Luc 18, verset 7, je cite, « Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, tandis qu'ils patientent à leur sujet. » Alors cette demande pressante, pourrait parler même d'imprécation, « Jusques à quand ?» portée en une puissante prière des âmes des martyrs assemblés sous l'autel, va recevoir réponse. Mais là, il faut faire attention. Nous avons une illustration que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Il est dit immédiatement après cette demande pressante que les élus reçoivent une robe blanche. Et nous savons que ce vêtement dans l'Apocalypse, nous l'avons déjà rencontré dans la vision inaugurale, dans l'invitation à l'église de la Odyssée, dans la vêture des 24 anciens. Ces robes blanches données aux martyrs sont comme une anticipation de celles qui seront données à tous les élus qui auront lavé, je cite le verset 14 du chapitre 7, lavé leurs robes et les ayant blanchis dans le sang de l'agneau. Les ayant blanchis dans le sang de l'agneau. Retenez bien cette parole. Alors ces vêtements blancs, c'est quoi ? C'est, je rappelle, hein, c'est un habit qui est signe de pureté, de vie nouvelle, et d'appartenance dès maintenant, d'appartenance au royaume de Dieu. Et c'est ce qui fait que ces martyrs n'auront pas à comparaître au jugement ultime, car, comme le dit le Seigneur dans l'évangile de saint Jean, en Jean 5, verset 24, « Celui qui écoute ma parole et croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient pas en jugement. » C'est pour donc l'ici maintenant, c'est pas quelque chose qui est remis à la fin des temps. Ces âmes des martyrs, communion de saints et non, je rappelle, c'est important, j'en avais déjà parlé précédemment, mais ces âmes des martyrs, c'est la figure de la communion des saints, et non une addition arithmétique d'anonymes. Et l'anonymat de la foule, ça nous renvoie dans l'Apocalypse à ceux qui sont marqués du signe de la bête. Ceux qui sont marqués du signe de la bête, ils sont véritablement dépersonnalisés. Ils sont massifiés. Et tous ceux qui, dans l'histoire humaine, sont marqués du signe de la bête, eh bien, sont comme massifiés. C'est une caractéristique d'ailleurs des idéologies qui parcourent l'histoire. Les idéologies ont quelque chose à voir avec les masses. Et les masses, c'est une quantité dépersonnalisée. Alors, nos saints martyrs, dont les âmes sont sous l'autel, eh bien, qu'est-ce qu'elles demandent ? Elles demandent que prenne fin le règne de l'iniquité de ce monde. Et on ne peut que souscrire à cela, quoi de plus légitime, puisque l'Écriture dit que ce monde passe, que vienne la grâce. Mais Dieu répond selon ses voies, et non pas selon le désir immédiat des hommes. Qu'est-ce qu'il dit dans sa réponse ? Il invite à la patience. Pourquoi la patience ? Parce qu'il faut que soit compté le nombre des élus. Et je cite, « Et il leur fut dit de se tenir en repos encore un peu de temps, jusqu'à ce que fussent au complet et leurs compagnons de service et de leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. » Ça veut donc dire que d'autres, semblablement à eux, à cause de la foi, subiront le sort, leur sort, à cause de la grande tribulation qui est à venir dans les chapitres suivants du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Donc, déjà, une première conclusion, les temps ne sont pas achevés, puisque le nombre des élus n'est pas encore compté. Ceci, c'est difficilement compréhensible à notre logique humaine. D'autant que le déchaînement de l'iniquité augmente. Et pourtant, Dieu ici met en avant sa patience. Et sa patience, qu'est-ce que c'est au fond ? C'est une preuve de son amour sans limite. Même si c'est incompréhensible aux âmes des saints comme à celles des justes de toutes les générations. Encore un peu de temps, l'expression mérite d'être soulignée. Et ceci là aussi ne se mesure pas à l'aune du temps des hommes. Car il est dit dans l'Écriture, 1000 ans sont à tes yeux comme un jour pour l'homme. Mais cela signifie que le temps des martyrs n'est pas clos, n'est pas achevé. Et je crois que cette remarque n'est pas seulement à entendre dans le seul contexte du livre de l'Apocalypse, mais bien de celui de toute l'histoire humaine. Car plus on s'approche de la consommation des siècles, plus le déchaînement de l'iniquité augmentera. Car, comme nous l'avons déjà vu dans les chapitres précédents, Satan sait que son pouvoir est limité, que ses jours même sont comptés. Et plus le combat contre les fidèles du Christ augmentera, plus, par voie de conséquence, le nombre des martyrs sera nombreux. Plus les martyrs seront nombreux, évidemment, ça c'est une vérité qu'il faut entendre. On peut remarquer aussi que, l'amour et la patience, qui sont liés en Dieu, sa patience est la preuve de son amour, comme je l'ai dit. Cela signifie, entre autres, qu'il connaît chacun des compagnons de service dont il est fait mention dans ces versets, de ceux qui vont être tués comme eux, comme eux, c'est en référence aux martyrs. De chaque âme qui va s'identifier dans le temps à l'amour oblatif du Christ. Mais en même temps, cette patience, elle a une autre signification. Elle sonne en quelque sorte comme l'heure ultime pour les habitants de la terre, et elle les invite une dernière fois à se retourner vers leur Dieu. Mais s'agissant de ses compagnons de service et de ceux qui vont être tués comme eux, il faut se souvenir que aucun de ceux qui appartiennent à Dieu ne sera perdu, comme le dit le Christ, dans le grand discours d'adieu tel qu'il est rapporté dans l'évangile de Jean, entre les chapitres 13 et le chapitre 17. Alors, on en vient maintenant proprement dit à l'ouverture du sixième sceau. Donc ce sont au chapitre 6 les versets 12 à 17. Il faut les citer. Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Donc vous aurez remarqué que l'ouverture de ce sceau a lieu dans le cadre d'un grand tremblement de terre. Il y eut un grand tremblement de terre. Verset 12. Deuxièmement, que le soleil s'obscurcit, et le soleil devint noir comme un sac de crin. Troisièmement, la lune est changée en sang. La lune entière devint comme du sang. Quatrièmement, les étoiles tombent du ciel comme les figues vertes du figuier par grand vent. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Cinquièmement, et là c'est extrêmement important, le ciel est roulé comme un livre. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Verset 14a. Et les montagnes et les îles sont déplacées. Et le jour de la colère de Dieu arrivé. Alors, c'est intéressant ces versets, parce que si on les met en lien avec nombre de livres de l'écriture vétérotestamentaire, on remarquera que dans diverses circonstances, on trouve des éléments semblables disséminés dans l'écriture. Par exemple dans le livre de l'Exode, mais aussi chez les prophètes Isaïe, Ézéchiel, Joël, Amos, dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu, dans la deuxième épître de saint Pierre, dans l'épître aux Hébreux. Mais ce qui est remarquable ici, c'est qu'au jour de la colère de Dieu, tous ces phénomènes cosmiques sont rassemblés. Et leur énumération, que signifie-t-elle? Elle signifie que la patience de Dieu prend fin, que le jour de la colère est arrivé, et que l'énumération de ces phénomènes mêmes est l'annonce des catastrophes cosmiques des temps de la fin, autrement dit de la consommation des siècles. Alors, je m'empresse de dire que plutôt que de regarder ces phénomènes sous l'angle du catastrophisme, il faut laisser ça à toute cette littérature sans intérêt qui traîne autour de l'Apocalypse, il vaut mieux là, pour ce qui nous occupe, en chercher les significations spirituelles. Et on remarquera que ça nous renvoie aux plaies d'Égypte et plus spécifiquement à la neuvième plaie, l'obscurcissement du soleil. Spirituellement, qu'est-ce que ça signifie, cet obscurcissement du soleil? Ça nous renvoie à la perte de la vérité, à la perte de Dieu, parce que le soleil étant ici un élément symbolique, bien sûr, qui nous renvoie à la lumière divine. On a dans le livre de l'Exode, au chapitre 10, que je vais citer, quelque chose d'assez intéressant sous ce regard. Alors, Exode 10, je prends mon texte. C'est les versets 21 à 29. Le Seigneur dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. » Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place, pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Vous voyez le contraste, hein ? La ténèbre, le soleil obscurcit, la ténèbre sur le pays d'Égypte. Mais les esclaves hébreux qui étaient en Égypte, eux, avaient de la lumière. Verset 24, « Pharaon appela Moïse et dit, « Allez, servez le Seigneur. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. » Moïse répondit, « Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons au Seigneur notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle. Car c'est là ce que nous prendrons pour servir le Seigneur notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir au Seigneur. Le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Pharaon dit à Moïse, « Sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. » Donc, au sixième sceau, par analogie, il est bien fait question de l'état d'âme des habitants de la terre, qui sont privés de vérité, qui sont privés de Dieu, mais par leur acte volontaire et conscient, pas parce que Dieu l'a voulu ainsi. Dieu est miséricordieux, donc celui qui va vers lui, il le reçoit. Donc là, c'est l'endurcissement du cœur des habitants de la terre qui est en ligne de mire. Donc ils font l'expérience douloureuse de la neuvième plaie, la perte de la lumière, celle pour laquelle ils ont été créés, parce que je le rappelle, nous sommes créés pour et en vue de la lumière de Dieu. Et ils font cette expérience douloureuse à la mesure de l'endurcissement de leur cœur, à l'image du pharaon d'Égypte. Et dans leur endurcissement même, ils pensaient, oh illusion, mais ils pensaient être à l'abri dans leur état pécamineux, comme le dit le livre de la sagesse que nous avons étudié dans les cours d'Ancien Testament au semestre dernier. Je vais citer Sagesse 17, verset 3-4. Alors qu'ils pensaient rester cachés avec leurs péchés secrets, sous le sombre voile de l'oubli, ils furent dispersés, en proie à de terribles frayeurs, épouvantés par des fantômes. Les réduits qui les abritaient ne les préservaient pas de la peur. D'où justement la demande qui est faite aux montagnes et aux rochers. Et ils disent aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et la colère de l'agneau. » C'est dans l'Apocalypse cette fois-ci. « Car il est venu le jour, le grand jour de leur colère. Et qui peut tenir ?» Donc là, il y a un certain nombre de significations symboliques qui sont évoquées et qui nous renvoient à des sens spirituels extrêmement précis. D'abord, il est parlé d'un tremblement de terre. Qu'est-ce que ça signifie dans l'Écriture ? Dans toute l'Écriture, mais en particulier dans l'Apocalypse que nous étudions aujourd'hui, que signifie cette image du tremblement de terre ? Elle signifie une intervention divine qui ébranle le monde. Parce que l'intervention divine est puissante et elle ébranle les fondements même de ce monde. Et ce tremblement de terre, d'ailleurs, on va le retrouver à plusieurs reprises. Dans l'ouverture du septième sceau, en Apocalypse 8, verset 5, donc au début du chapitre 8, au témoignage des deux témoins qui apparaissent au chapitre 11, verset 19, et lors de la septième coupe de la colère de Dieu, au chapitre 16, verset 18. Ce tremblement de terre, il exprime bien sûr une intervention divine qui ébranle le monde, mais il exprime aussi, par voie de conséquence, les deux choses sont totalement liées, l'expression de la colère divine. Le psaume 17, verset 8 nous le dit, « Et la terre fut ébranlée et trembla, les assises des montagnes s'agitèrent et frémirent, car Dieu s'était irrité contre elles. » Psaume 17, verset 8. Autre symbole qui a une lourde signification spirituelle, c'est la lune qui est changée en sang, nous l'avons vu, hein. Donc dans le verset 12b, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Alors, déjà une première remarque, on trouve une expression semblable dans la prophétie de Joël. Et pour le prophète Joël, c'est une marque de la fin des temps. Je cite Joël, chapitre 3, verset 4. « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, le grand et terrible jour. » Alors, dans la mesure où la lune reflète la lumière du soleil, ici tout est obscurci, non seulement le soleil, mais bien sûr la lune également. Parce que cette lune qui est aussi symbole de connaissance, elle est changée dans sa nature même, puisque la lumière du soleil étant obscurcie, les hommes n'ont plus accès à la vérité, à la révélation de Dieu. C'est ça que ça veut dire, l'obscurcissement du soleil et de la lune changée en sens. C'est l'incapacité pour les hommes d'accéder à la vérité de Dieu et à recevoir sa révélation. Et il nous est dit aussi que tous ces astres, littéralement, tombent sur la terre. Comme un figuier jette ses fruits encore verts, donc ce qui n'est pas normal, quand il est secoué par un grand vent. Et nous allons voir une autre image symbolique très chargée spirituellement, qui est le vent qui est le vent de la colère de Dieu, et qui manifeste l'heure de l'épreuve. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette heure de l'épreuve? Eh bien, cette heure de l'épreuve, qui est annonciatrice du jugement, bien sûr, de l'exécution du jugement, des sentences de Dieu par rapport au monde impie, eh bien, cette heure de l'épreuve, elle manifeste l'absolue souveraineté de Dieu. Et le livre roulé dont parlent nos versets, le livre roulé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le livre qu'on referme, puisque c'était, quand on parle de livre, c'est pas une expression tout à fait propre. C'est un rouleau qu'on enroule à nouveau. Après l'avoir déroulé, on l'enroule à nouveau. Et le fait que l'on ferme à nouveau ce rouleau, signifie que la situation du monde va radicalement changer. Autre symbole qui a une signification spirituelle évidente, c'est la montagne. Dans l'Écriture, la montagne est souvent, pas seulement, mais souvent, identifiée à la puissance, à l'orgueil. Et évidemment, les montagnes qui sont remuées de leur place, ça signifie que l'orgueil va être abaissé. Que la puissance des hommes et de leurs institutions va être malmenée, abaissée, va tomber. Autrement dit, que ces puissances ennemies, parce que là, on parle toujours de la puissance de l'homme séparé de Dieu, de l'orgueil, bien sûr, l'orgueil, c'est la manifestation de l'autonomie de l'homme en face de Dieu, ces puissances qui, par définition, sont ennemies de Dieu, elles vont connaître leur fin. Et l'île dont parle le livre d'Isaïe, et ici dans l'Apocalypse, l'île, c'est le symbole de l'autonomie. Bien sûr, elle est seule au milieu de la mer, donc elle est autonome. C'est la manifestation de l'autosuffisance humaine. Et je rappellerai, en utilisant un exemple qui est évidemment bien postérieur au livre de l'Apocalypse, que c'est pas un hasard si le lieu de l'utopie de Thomas More est une île. Je rappelle que l'utopie de Thomas More, c'est l'une des matrices de la philosophie des Lumières, qui repose sur l'idée d'un homme complètement séparé de Dieu, pour ne pas dire plus, puisque j'en avais parlé dans les années précédentes, et notamment à l'université d'été, mais de la métropole roumaine. Mais donc cette île qui voit la manifestation de l'utopie, cette utopie, justement, c'est la manifestation de l'autonomie, de l'autosuffisance de l'homme, autrement dit, de l'homme radicalement séparé de sa source, qui est Dieu. Donc, dans notre texte, ces montagnes et ces îles vont être balayées par un ébranlement qui secoue l'humanité. Et cette humanité, elle a beau se cacher, elle a beau chercher refuge dans les valeurs ténébreuses du prince de ce monde, elle ne sera pas épargnée par la colère de Dieu. Au contraire, son endurcissement ne va faire que de la précipiter dans le gouffre du néant. Il y a là une réminiscence également de la prophétie d'Osée au chapitre 10, verset 8. Je cite « Les hauts lieux de Beth-Aven où Israël a péché seront détruits. L'épine et la ronce croîtront sur leurs autels. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. » Voyez, la terminologie est la même. Ainsi d'ailleurs que dans l'évangile de saint Luc. Je cite, « Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuse, c'est le Christ qui parle, heureuses les stériles, heureuses les entrailles, qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors, ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. » Luc 23, verset 29-30. Voilà, donc maintenant, on passe au chapitre 7. Et on s'attendrait à trouver dans le chapitre qui suit, l'ouverture du septième sceau, mais qui ne va venir qu'en fait dans les premiers versets du huitième chapitre, et il y a une raison à cela. Dans le chapitre 7, nous sommes mis en présence de deux catégories de sauvés, de rachetés. Sont nommés successivement les 144 000 et une foule nombreuse qui représente les nations. Nations, c'est Goyim, c'est Gentiles, c'est les païens. Hein. Ça que ça signifie nation à ce moment-là. Donc, le chapitre 7, de ce fait, se divise en deux parties. 7, 1 à 8. Et 7, 9 à 17. Et en fait, comme je viens de le dire, le septième sceau ne sera ouvert qu'au début du chapitre 8. Et il faut rappeler, parce que tout se tient dans cette révélation donnée à saint Jean, Apocalypse, c'est révélation, il faut rappeler que le septième sceau ne fait qu'introduire au septenaire des trompettes. Dans la leçon précédente, j'avais déjà dit que, en présence de cette succession de trois septenaires, donc l'ouverture des sept sceaux, les sept trompettes, les sept coupes, il ne fallait probablement pas voir l'image d'une succession chronologique, temporelle d'événements. En tout cas, c'est une interprétation qui me paraît la plus vraisemblable. Mais bien plutôt, un même message prophétique qui est présenté sous différents aspects. Et le sixième sceau qui marque, qui porte la marque plus exactement de l'ébranlement cosmique, est le signe de l'intervention décisive de Dieu, de la colère de Dieu et de l'agneau. Et là, dans le chapitre 7, qui précède l'ouverture du septième sceau par l'agneau, l'agneau qui ouvre les sceaux précédents, bien sûr, comme nous l'avions vu, ça sera précédé par un silence. Et ce silence est le signe qu'on est justement, et ça semble vérifier l'hypothèse précédemment annoncée, que l'on est au début d'un nouveau septennaire, et ce silence est lui-même le préalable à une manifestation de Dieu, pas n'importe quelle manifestation solennelle, parce que suite à l'ébranlement du monde, les choses vont radicalement changer. Donc j'ai parlé de deux parties à ce chapitre 7. La première qui concerne les 144 000 et la seconde, la foule innombrable, qui est nommée ainsi. Prenons d'abord les trois premiers versets du chapitre 7. À un moment très sombre, si l'on se reporte à l'ouverture du sixième sceau que nous avons vu, ici, il y a quatre anges qui accomplissent leur office. Qu'est-ce qu'ils font, ces anges, en accomplissant leur office? Ils retiennent les quatre vents. Les vents, ce sont les symboles du jugement. Pourquoi retiennent-ils ces quatre vents? Eh bien, c'est comme une pause jusqu'à ce que tous ceux qui appartiennent à Dieu portent son sceau, portent sa marque. Et ce n'est qu'après cela que le septième sceau sera ouvert. Autrement dit, le rôle des anges, il est ici à double entente. D'une manière générale, nous savons qu'au temps de la miséricorde, c'est-à-dire au temps de la grâce, notre temps, les anges messagers exercent leur rôle, leur mission en faveur des élus. Mais au temps du jugement, il n'en est pas ainsi. Au temps du jugement, au contraire, ils sont les exécuteurs des décisions, des jugements que Dieu prononce sur le monde. C'est pourquoi le texte de l'Apocalypse nous dit qu'ils se tiennent aux quatre coins, représentation traditionnelle de la terre, bien sûr, aux quatre coins de la terre et qui retiennent pour un temps seulement, les quatre vents, qui sont eux-mêmes des signes de la souveraineté de Dieu et des jugements qui vont s'abattre sur les hommes impies. Il nous est dit, selon une certaine interprétation, il faut toujours être très prudent quant aux interprétations des textes de l'Apocalypse, beaucoup de ces textes peuvent être à double, triple ou quadruple entente, même, et voire plus. Il nous est dit que ceux qui portent ce sceau, autrement dit la marque de Dieu, seront préservés. Et par ailleurs, comme Satan est le singe de Dieu, lui aussi marquera celui qui lui appartienne du signe de la bête. Donc au chapitre 7, les quatre anges retiennent les vents, mais dès que les quatre premières trompettes retentiront, donc chapitre suivant, les vents du jugement souffleront, seront lâchés. Alors les anges exécuteront les décisions de Dieu, car ici, on n'est plus dans jusque-à quand. Ici, les prières des saints hâtent l'avènement du grand jour. Autrement dit, après l'imposition du sceau sur les élus, l'accomplissement des décrets divins peut commencer. C'est en quelque sorte, comme je viens de le dire, la réponse de Dieu à l'interrogation des âmes des martyrs qui sont sous l'autel. Jusqu'à quand, Seigneur? Là encore, nous retrouvons des proximités avec des images vétérotestamentaires de la prophétie d'Israël. Par exemple, en Isaïe 41, verset 16, Dieu s'adresse au faible reste d'Israël. Ça, c'est à propos des vents. Et à propos de ceux qui te suscitaient querelle, donc au reste d'Israël, il dit, tu les vanneras et le vent les emportera et un tourbillon les dispersera. Manière de rappeler que les vents sont ici les serviteurs. Les vents sont les serviteurs des jugements divins. Et on retrouve également des versets semblables en Jérémie 4, versets 11-12, et en Daniel, dans la prophétie de Daniel, chapitre 7, verset 2. De même, Isaïe souligne la souveraineté de Dieu sur les quatre extrémités de la terre. Et on a vu que les quatre anges sont aux quatre extrémité de la terre, c'est Isaïe 4, verset 12d. En Jérémie également, c'est répété en 49, 36. C'est intéressant de voir aussi que il y a d'autres références sur ces vents comme messagers de Dieu, le psaume 103, verset 3, que nous récitons à Vêpres. La prophétie de Zacharie au chapitre 9, verset 14. Et dans la prophétie d'Osée au chapitre 13, verset 15, eh bien, le vent est comparé à un envoyé eschatologique. Donc, je rappelle, parce que bon, il faut suivre le fil hein, dans ce texte extraordinairement riche. Au début de ce chapitre 7, on est en présence d'un répit pour que colère de Dieu ne s'abatte pas dans un même châtiment sur ceux qui sont marqués du sceau de Dieu et ceux qui sont comptés sous le signe de la bête. Et là, nous voyons apparaître un cinquième ange qui vient de l'Orient. C'est un ange supplémentaire. Il y a les quatre qui sont aux quatre extrémités de la terre. Et là, il y en a un cinquième qui vient de l'Orient. Je rappelle que cette thématique de l'Orient, elle est tout à fait fondamentale. Parce que c'est le lieu d'où vient le salut. C'est le lieu de la résidence de Dieu. C'est le lieu, quand Dieu revient dans le temple en Ézéchiel 43:2, sa gloire vient de l'Orient, comme il nous est dit. C'est là également, de ce lieu qu'est l'Orient, d'où vient le roi Messie. Et entre parenthèses, nous savons tous que cette thématique de l'Orient, cette symbolique de l'Orient, est fondamentale quant à l'orientation de la prière de l'Église, puisque l'Église, le corps du Christ, eh bien, l'Église est pérégrinante de l'Occident qui est le lieu des ténèbres vers l'Orient qui est le lieu de la lumière. Elle est pérégrinante parce qu'elle marche à la rencontre de son Maître et Seigneur qui est le Christ. Donc là, nous voyons également advenir la question du sceau et de l'imposition du sceau. Alors, à la fois ce sceau qui est la marque de Dieu sur les élus, eh bien, il préserve ses élus, mais en même temps, c'est encore à double entente là, en même temps, eh bien, il ne retranche pas ses bénéficiaires des catastrophes eschatologiques qui sont annoncées dans l'ouverture des sceaux précédents, puisque il nous est dit que tous les bénéficiaires de ce sceau divin dont ils vont être marqués, pratiquement tous, sont promis aux martyrs. Mais la différence, évidemment, c'est que le Christ est avec eux et il les garde. Quelles que soient les tribulations qu'ils vont subir, le Christ est avec eux et il les garde. Ça nous est dit en Apocalypse 3:10, comme nous l'avons vu. Alors que, au contraire, ceux qui persistent dans l'endurcissement du cœur, à l'image du pharaon d'Égypte, à la désobéissance aux paroles de vie, désobéissance par un choix volontaire et conscient, je le rappelle, eh bien, ceux-là, Dieu les abandonne à Satan. À moins qu'ils reviennent vers Dieu, ils sont abandonnés à Satan. Et il est dit dans le chapitre 9, verset 4, que ceux qui ne portent pas le sceau, donc sous-entendu de Dieu, sont livrés aux anges de l'abîme lorsque le cinquième ange sonne la cinquième trompette, les autres, ceux qui portent le sceau justement, étant préservés. Il y a une précision importante, je crois, qui, précision, c'est pas que je crois, c'est qu'elle est tout à fait fondamentale, à apporter ici. Le sceau, c'est sphragis, et le terme sphragis désigne le sceau des élus. Parce que le texte grec du Nouveau Testament emploie deux termes pour désigner celui des élus, sphragis, et le signe de la bête, le sceau de la bête, si on peut parler ainsi, le signe de la bête, qui lui s'appelle Karagma, en Apocalypse 13, verset 16. Alors bien sûr, il y a un parallélisme des deux, puisque qui est renforcé en français, puisqu'on parle de sceau ou de signe dans les deux cas, en langue française, mais le texte grec fait une très nette distinction. Ce sphragis, le sceau des élus. Bah oui, pourquoi cette distinction, en fait, hein? Eh bien, il y a plusieurs raisons, dont l'une est très importante, c'est que le sphragis, le sceau des élus, eh bien, il nous renvoie aussi à l'onction baptismale. Il a une connotation nettement baptismale. Ce terme est employé dans la deuxième épître de saint Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 21, je cite, « Lui qui nous a aussi marqués d'un sceau, sphragis, et qui a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Donc ça veut dire que celui qui reçoit ce sceau au baptême, il est en quelque sorte propriété de Dieu, pas en quelque sorte, il est la propriété de Dieu. Et alors il est ce sceau, le signe sauveur qui le protégera lors du jugement eschatologique. Parce que le sceau dont sont marqués les élus de Dieu les protège au jugement eschatologique. Alors bien sûr, il n'y a pas d'automaticité, si du moins les arts de l'esprit dont nous parle saint Paul, les arts de l'esprit reçus au baptême, eh bien, fructifient durant la vie. Sinon, le don reçu au baptême, il reste lettre morte, bien sûr. C'est intéressant, je crois, les commentateurs se sont penchés dessus, et il y a des études très intéressantes là-dessus sur les anciens rituels de baptême. C'est intéressant de regarder du côté des anciennes pratiques syriaques du baptême. Je me souviens, mais je ne sais plus dans quelle revue, j'avais lu justement quelque chose qui nous renvoyait au sceau divin et à la marque du sceau divin dans un rituel baptismal. Mais on a aussi des textes comme celui de Lactance dans les institutions divines, qui fait référence au signe de la croix sur le front du baptisé. Et puis, il n'est pas inutile de se souvenir, eh bien, je ne sais pas si c'est lié à un rituel de baptême là pour le coup, mais la pratique très répandue des chrétiens d'Égypte qui se font tatouer sur le poignet droit la croix du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ comme signe d'appartenance. Alors, Apocalypse 14, 1 précise également que les 144 000 portent sur le front le sceau qui mentionne le nom divin et celui de l'agneau. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 144 000 qui ont fait couler beaucoup d'encre dans l'interprétation de ces textes, mais aussi dans toute une littérature de pacotille qui malheureusement entoure ce saint livre de l'Apocalypse et qui fait la joie d'un certain nombre de gens qui sont ennemis de Dieu. Je veux dire, les attendus de cette littérature de pacotille, bien sûr. Bon, de toute évidence, il faut dire que cette énumération, ce chiffre de 144 000 a une portée symbolique. Pas le prendre à la lettre. Remarquons d'abord qu'il est lié au chiffre 12. Le chiffre 12 se rapporte à l'Église. Et le fait que les élus proviennent de toutes les tribus des fils d'Israël signifie très clairement ici que l'Église est le nouveau peuple choisi, dont la racine est celui du peuple de la première alliance. Dans l'épisode du châtiment de Jérusalem que l'on trouve dans la prophétie d'Ézéchiel, on trouve aussi un marquage, je veux dire, cette idée du sceau n'est pas propre à l'Apocalypse, on la trouve aussi dans l'Ancien Testament et en particulier dans la prophétie d'Ézéchiel. Ce marquage a pour but une mise à part des préservés. Le Seigneur lui dit... Il s'agit de l'ange, c'est un chérubin qui intervient. Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui aspirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qu'ils commettent. Donc c'est Ézéchiel, chapitre 9, verset 4. Et un peu plus loin, il est dit « Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. » Chapitre 9, verset 6a. Alors, l'énumération, s'agissant des 144 000, bien sûr, c'est celle des 12 tribus, mais il faut remarquer ici qu'il y a une particularité. Parce qu'on retrouve dans l'Écriture cette nomination des 12 tribus. Mais ici, et c'est propre à l'Apocalypse, celles de Dan et celles d'Éphraïm sont omises. Du moins, bien sûr, elles sont omises quant au nom, mais elles sont bien présentes sous d'autres noms, puisqu'il y aurait à ce moment-là plus que 10 tribus. C'est Joseph et Manassé qui sont nommés en leur lieu et place. Alors, la question, évidemment, vient tout de suite à l'esprit. Pourquoi ? Pourquoi ? Et il y a plusieurs textes et traditions judaïques qui nous parlent de l'idolâtrie de Dan. Il faut en particulier se reporter au premier livre des Rois, donc au chapitre 12, je vais le citer, chapitre 12, les versets 29 et 30. Donc, il plaça, il s'agit de Jéroboam, hein, le roi idolâtre, il plaça l'un de ses veaux, les veaux d'or donc, il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut une occasion de péché, le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Donc il faut comprendre, par référence à ce texte du premier livre des rois, ou troisième livre des règnes dans la Septante, que cette omission est due au péché d'idolâtrie de Jéroboam, qui a placé un veau d'or à Dan et un veau d'or à Bethel, qui est dans le territoire de la tribu d'Éphraïm. Et justement, le livre des Juges parle des méfaits des Danites, chapitre 18. Alors, je vous laisse le soin de le lire en entier. Donc, le testament de Dan dans l'ensemble appelé, ça c'est une référence qui est extra-scripturaire, mais qui appartient à toute une collection de livres dont j'ai déjà abondamment parlé, que sont les livres regroupés sous le vocable d'écrits intertestamentaires de la Bible. Ce sont évidemment pas des livres canoniques, mais qui nous renseignent beaucoup, qui sont très précieux pour nous. Et il est mentionné dans le testament de Dan, qui est l'un des testaments des 12 patriarches, il est mentionné l'opposition de Dan à Lévi et à Juda, lequel Dan se détournera du Seigneur pour suivre son prince Satan. Vous voyez, l'accusation est très forte. Saint Hippolyte de Rome, d'ailleurs, lorsqu'il commentera Genèse 49-17 et Deutéronome 33-22, en Genèse 49-17, où Dan est appelé le serpent par Jacob, au moment de la bénition de Jacob sur ses fils, dit que, c'est Hippolyte là qui parle, dit que de même que le Christ est né de la tribu de Juda, de même l'Antichrist, l'Antichristos, celui qui prendra la place du Christ, naîtra de celle de Dan. Et dans son monumental ouvrage qui s'appelle « Le contrôle des hérésies », Saint Irénée de Lyon, le saint évêque de Lyon, nous informe que, je cite, « C'est pour cette raison que la tribu de Dan n'est pas comptée dans l'Apocalypse parmi celles qui seront sauvées. » C'est « Contre les hérésies », livre 5, chapitre 30, verset point 2. Point 2, pas verset, mais point 2. D'où, d'ailleurs, dans notre texte de l'Apocalypse, le remplacement de Dan par Manassé en 7, 4, verset 8. 4 à 8. Il faut remarquer aussi que l'ordre de nomination des tribus ne correspond pas aux listes de l'Ancien Testament, sauf peut-être en 1 Chronique, 1 Paralipomène, 2 verset 3 et suivant, où c'est bien la tribu de Juda qui est nommée en première. Pour quelles raisons ces différences? Alors les commentateurs sont nombreux à échafauder des hypothèses, mais quand on a lu l'essentiel des commentaires là-dessus, il faut bien dire une chose, en toute humilité, c'est que la question reste ouverte. Alors bien sûr, le fait de nommer en premier la tribu de Juda, ça se justifie, puisque c'est de Juda que sortent les prophéties messianiques. C'est le Christ lui-même qui est appelé lion de la tribu de Juda, dans Isaïe. Bon, ça c'est pour la première partie du chapitre 7. La deuxième partie, ça concerne, puisqu'il y a vraiment une distinction dans le récit qui va de 7.1 à 7.17. Distinction 7.1.8 et deuxième partie 9.17. Contrairement à la première partie, où les élus qui la composent sont dénombrés, 144 000, même si nous avons vu, c'est un chiffre symbolique qui n'est pas à prendre au pied de la lettre. Maintenant, dans la deuxième partie, on parle d'une foule innombrable, donc qui n'est pas dénombrée. Pour autant, cette foule est-elle très différente du groupe précédent? Bien sûr, cette foule innombrable, bien que pas dénombrée, elle a quelque chose à voir avec le salut. Elle n'est pas en dehors du salut. Parce que sinon, elle ne serait pas présente avec les quatre vieillards, les 24 anciens, dans la cour céleste. Elle ne serait pas présente pour entourer ceux que nous avons déjà vus autour du trône divin et pour célébrer les louanges de celui qui est assis sur le trône. Donc, en vertu de cela, on peut peut-être faire un rapprochement, c'est une hypothèse, hein, mais on peut peut-être faire un rapprochement entre cette foule qui est de nature innombrable, qu'on ne peut pas dénombrer, et la descendance d'Abraham, qu'on ne peut pas non plus dénombrer, selon Genèse 15.5 et 22.17. N'y a-t-il pas là quelques raisons de voir, justement, dans cette présence d'une foule innombrable dans la cour céleste, l'accomplissement de la promesse faite à Abraham? Parce que cette foule innombrable, c'est pas n'importe quoi, c'est pas une quantité arithmétique et une masse anonyme. Elle est composée nécessairement, puisqu'elle fait face au trône de Dieu, elle est composée de personnes qui sont en relation avec Dieu et qui sont en relation les unes avec les autres. C'est peut-être aussi l'image de l'Église triomphante de tous les siècles. En tout cas, donc, c'est un peuple sacerdotal, comme il était fait mention dans Apocalypse 5.10, puisque cette foule innombrable participe à la liturgie céleste en ces lieux et places, mais elle est bien, bel et bien participante de cette liturgie céleste. Et elle est vêtue de robes blanches. Elle est vêtue de robes blanches, donc il faut dire que cette foule innombrable, hein, parce que c'est dit au verset 9, après cela je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Alors, les robes blanches, bien sûr, c'est encore, ça renvoie à une symbolique que nous avons rencontrée depuis le début du livre de l'Apocalypse de Jean, ça renvoie à la pureté, mais ça renvoie aussi plus profondément à la réalité du salut qui est accordé au baptême. Parce qu'au baptême, nous recevons la plénitude de la grâce, donc la réalité du salut. Encore faut-il s'y conformer jour après jour dans notre vie chrétienne. Mais c'est cela que nous recevons. Donc, nous sommes comptés au bénéfice d'une réalité nouvelle. Le baptême, c'est une nouvelle naissance, donc nous sommes comptés au bénéfice d'une réalité nouvelle. Et cette foule qui est coliturge, qui est un peuple sacerdotal, coliturge, qui est devant le trône divin et qui concélèbre les louanges de Dieu autour du trône de Dieu et de l'agneau, eux-mêmes entourés des 4 vieillards et des 24 anciens, eh bien, cette foule, revêtue de robes blanches, elle tient des palmes dans ses mains. Elle tient des palmes dans ses mains. Et cette foule-là, eh bien, elle vient de tous ceux que l'on ne peut compter et qui ont subi la grande tribulation. Et leurs robes blanches, elles ont été lavées dans le sang de l'agneau. Elles ont été lavées dans le sang de l'agneau. Et tous ceux-là sont vainqueurs, c'est pour ça qu'ils ont des palmes à la main. Alors là, bien sûr, on peut revoir, puisque les symboles peuvent jouer sur plusieurs niveaux de signification. On peut voir une référence à la fête des tabernacles, où le peuple avait des palmes dans les mains, comme on peut voir d'ailleurs les enfants des Hébreux qui, au jour de l'entrée dans la ville sainte de Jérusalem du roi Messie, avaient des palmes à la main, jetaient leurs vêtements sous les pieds du petit de l'ânesse qui portait le roi Messie et qui criait « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » C'est ainsi que c'est rapporté dans l'Écriture. Et il criait d'une voix forte « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau et tous les anges » donc c'est à partir du verset 10, chapitre 7, « Tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. » Alors là, il y a un dialogue à partir du verset 13 qui s'instaure justement et qui dit « L'un des vieillards prit la parole et me dit, donc à Jean, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont été blanchis dans le sang de l'agneau. » Notez l'image, hein. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent nuit et jour dans son temple, etc. Donc voilà, ils servent, la proclamation est faite d'une voix forte, ils servent nuit et jour celui qui est sur le trône dans le temple, ça nous renvoie aussi à Ézéchiel 40, au chapitre d'Ézéchiel 40 à 43, et évidemment, le temple qui est cité dans Apocalypse 7, verset 15, c'est un temple qui est le temple céleste. Donc, on va voir après l'ouverture, puisqu'on termine là le chapitre 7, on va voir l'ouverture du septième sceau. Et là, on passe à un autre septenaire. Le septième sceau, qui nous renvoie à la septième trompette, qui elle-même nous renvoie à la septième coupe. Autrement dit, c'est trois septenaires de trois jugements simultanés qui ont une correspondance dans le ciel, qui est celle de trois manifestations de la souveraineté divine, comme nous le verrons. Donc, ce qu'on peut dire pour terminer, c'est que à l'ouverture du septième sceau, la patience de Dieu a contenu sa colère, pour les raisons que nous avons vues, selon le temps de Dieu, c'est-à-dire ça se mesure en siècles des siècles selon le temps des hommes, mais peu importe la temporalité humaine dans ce domaine-là. Donc la patience a contenu la colère en Dieu, mais qu'avec l'ouverture du septième sceau, alors la colère va se manifester, va se traduire par une suite d'événements. Elle va agir sous forme de jugement et le monde entier qui est endurci contre Dieu, qui ne veut pas entendre parler de sa source de vie qui est Dieu, son créateur et son sauveur, eh bien ce monde entier va en expérimenter les effets terrifiants. On verra qu'il y a trois, en résumant cela, il y a trois séries de jugements qui s'accompagnent de trois types d'intensité, et on va voir comment ça se déploie, parce que à partir de là, progressivement, va se dévoiler la personne de l'Antichristos, l'Antichrist, celui qui va combattre le Christ et ses élus, mais celui qui, en définitive, perdra la partie et sera jeté dans les abîmes. Voilà, donc à la prochaine fois, nous avancerons dans cette direction.